Merci Edith, et je suis vraiment heureuse d'être avec vous ici en Suisse. C'est ma première fois en Suisse. Et franchement... C'est pas mal du tout. Il manque un peu le soleil, mais c'est pas mal. Non, c'est vraiment magnifique. On s'est un petit peu promené. Je vais dire quelques mots sur moi, mais juste quelques mots, puisque j'aimerais vous amener dans mon histoire tout au long de la journée et simplement vous partager comment Dieu m'a rencontré dans les pires tempêtes de ma vie et que rien n'est impossible à Dieu. Amen. Moi, je suis Daria. J'ai bientôt 36 ans. Avec mon mari Simon, on a 4 filles. Dont trois ados et Mélissa qui est avec nous, qui a 11 ans. Elle a eu 11 ans avant-hier. On sert Dieu depuis qu'on a 18 ans. On s'est rencontrés à l'école biblique quand j'avais 16 ans. Et en fait, je vais vous expliquer un peu plus tard comment Dieu nous a appelés à son service. Mais une chose est sûre, c'est qu'on est passionnés de Dieu. On est passionné de l'église locale, passionné de l'implantation d'églises, et notre vie sert à servir Dieu et à implanter des églises et à le glorifier. Et ça, peu importe ce qu'on vit et peu importe ce qu'on traverse. J'ai un message pour vous, les filles. J'aimerais vous dire aujourd'hui, pour commencer cette journée magnifique, j'aimerais te dire que tu es prête. On va commencer direct dans le vif du sujet. Tu es prête. Tu es prête pour un temps comme celui-ci. Tu es prête à te lever. Tu es prête à briller dans ton monde. Tu es prête pour un réveil spirituel. Qui ressent ça dans l'air là? On sent, hein? On sent quelque chose qui se passe dans l'air. On sent quelque chose qui se passe dans nos tripes. On sent quelque chose dans notre esprit. C'est comme si notre esprit il bouillonne. Et on sent un réveil venir sur l'Europe, pas vrai? Vous aussi en Suisse? On le ressent très très fort en France. Et je le ressens très fort de partout où j'ai amené prêcher dans le monde ou quoi. Je ressens le réveil qui arrive. Il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel et j'aimerais te dire que tu es prête. Tu es prête. Est-ce que vous savez pourquoi j'en suis si sûre? La seule raison pourquoi je peux tellement affirmer de manière si claire que tu es prête, c'est parce que le jour où tu as accepté Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu as tout reçu. Tu as reçu la vie éternelle. Tu as reçu le pardon de tes péchés. Tu as reçu la liberté de tout ce qui t'enchaînait dans ta vie. Tu as reçu la guérison de ton corps. Tu as reçu l'armure du Saint-Esprit, l'armure de Dieu qui est là et qui t'aide et que tu es équipé pour marcher dans ce monde. Tu as reçu le Saint-Esprit qui, lui, t'équipe en puissance, en feu. Avec Jésus, on a tout reçu. On a reçu la paix qu'on peut vivre même dans les pires moments de ta vie. Tu as reçu l'amour inconditionnel. On peut aimer même les gens peu aimables. C'est génial. On a tout reçu. Ça fait rire, ça. Les filles, on a tout reçu. Quand on a accepté Jésus, alors peut-être qu'il y a des femmes qui n'ont encore jamais accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Ne t'inquiète pas, on a toute une journée où tu auras l'occasion de le faire. Pourquoi? Parce que c'est la meilleure décision que tu peux prendre dans ta vie. C'est une nouvelle naissance. Quand on accepte Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, quand on ouvre son cœur pour Jésus, c'est comme si on vit une nouvelle naissance, une deuxième naissance. On naît une fois physiquement et on naît une fois spirituellement. Et aujourd'hui, toi qui ne connais pas encore Jésus, tu vas avoir l'occasion d'ouvrir ton cœur et de renaître spirituellement et de recevoir tout ce que je viens de dire. C'est alléchant, non? Tout ce que Jésus nous a donné, tu vas avoir l'occasion de le recevoir aujourd'hui. Amen. Alors on a tout reçu et on est prête. Ça, même si on ne le ressent pas. Être prête ne veut pas dire qu'on se sent tout le temps comme des warriors. Eh ouais. Être prête, ça ne veut pas dire, comme ce magnifique clip qu'on a vu tout à l'heure, qui m'a beaucoup touchée, ça ne veut pas dire qu'on est là chaque jour de notre vie avec l'épée, la couronne, l'armure, et on marche comme ça dans la vie, et on se dit « Non, il n'y a personne qui pourra me toucher. » On connaît la vie, ça va, je suis maman de 4 enfants, on est passé par des montagnes russes dans notre vie, il y a des jours avec, des jours sans, on est tous d'accord, on est tous humaines, on vit dans le même monde. Je pense que la Suisse ne doit pas être si différent que la France, au niveau problème, on sait ce que c'est. Mais les filles, on est quand même prêtes, même si on ne le ressent pas. Ça, c'est une réalité spirituelle. Ça, c'est quelque chose, c'est une vérité qui ne changera pas. Quand j'avais 9 ans, je sortais de l'école à 16h20, en France, on termine l'école à 16h20. J'empruntais les petites ruelles du vieux quartier du Panier à Marseille où j'habite pour rentrer chez moi. Et au détour d'une ruelle, je vois un attroupement de personnes. Et c'est comme s'ils m'attendaient. Et là, j'avance et tout d'un coup, je sens une crainte en moi. Je sais que quelque chose va se passer. Je sens que je suis comme piégée. Je ne peux pas repartir en arrière, je dois passer par cette rue pour rentrer chez moi. Mais je sens que quelque chose va arriver. J'ai 9 ans. Ce groupe de personnes m'encercle. Et je me fais abuser sexuellement. J'ai 9 ans et je suis confrontée pour la première fois à une sexualité sale. Pas prévue par Dieu, pas comme ça. Et je suis là et j'ai 9 ans et j'ai honte. Je pleure. Je suis choquée. Je me sens coupable. Je me sens pas prête. Pourtant, j'aime Jésus depuis ma tendre enfance, mais je me sens pas prête à ce moment-là. Je sais plus comment j'ai réussi à m'en défaire, mais je me vois juste courir et rentrer chez moi. Courir et je pleure et je pleure. Et je sens le poids du monde sur mes épaules à l'âge de 9 ans. Et je sens que je suis coupable, que c'est de ma faute et j'ai honte. Et je me sens nulle et je me sens pas prête. Je rentre chez moi en pleurs. Je vais voir mes parents qui sont pasteurs. Mes parents, ils sont missionnaires pasteurs. Et on a grandi dans une famille où on a dit on met tout à la lumière. Parce que tout ce qui est dans l'ombre, l'ennemi a l'accès pour nous détruire. Alors mettons tout à la lumière pour que l'ennemi n'a pas accès à nous faire du mal et à détruire, même si on vit des drames dans la vie. Alors je vais voir mes parents, et grâce à ces valeurs que mes parents nous ont inculquées, je vais voir mes parents en pleurs et je leur explique ce qui vient de m'arriver. Je leur explique que je viens de me faire abuser. Mes parents sont choqués, ils pleurent. Je vois encore le visage de mon père plein de colère et en pleurs et il tape contre le mur avec son poing et il crie à Dieu ensemble. Il dit « Mais Seigneur, on est là pour te servir, on est là pour bénir les gens dans ce quartier qui a été détruit par tant de méchanceté et de haine. On est là pour aimer les gens, ma mère qui sortait la nuit pour aider les prostituées, mon père qui aidait les sans-abri. » Et on était là et c'est comme ça que l'église a commencé à Marseille. Et ils sont là, ils ont dit « On a dit, on est prêt à tout ». On nous avait brûlé des voitures, on nous avait cambriolé 15 fois parce qu'on était chrétiens, parce qu'on est d'origine allemande. Alors on nous a fait à la misère, on a vécu la persécution pendant 7 ans. Mes parents ont crié, ils ont dit « Dieu, tout, on peut tout vivre, on est prêt à tout sacrifier, notre confort. On est prêt à tout sacrifier, mais qu'on touche pas à nos enfants. Qu'on touche pas à nos enfants. » Et malgré leur incompréhension, malgré leur tristesse, le choc, mes parents prennent une décision de prier pour moi. À ce moment-là, quand ils prient pour moi, je commence à trembler de tout mon corps et je tombe par terre. Moi, en souvenir, j'ai l'impression que je tombe dans des nuages. Je n'ai pas la sensation que je me fracasse au sol et que je me suis brisée des os. J'ai vraiment juste la sensation que je tombe dans des nuages. Et au sol, donc mes parents étaient témoins de cette scène, pendant 30 minutes, j'étais allongée au sol. Et je me souviens exactement de la rencontre que j'ai eue pendant ces 30 minutes. J'étais allongée donc, dans cette rencontre et je vois une main dans la mienne. À cet instant, je sais exactement que c'est la main de Jésus. Je vois cette main, je ne me souviens pas du visage, je vois Jésus, je vois cette main, et Jésus qui me dit « Daria, suis-moi ». Je me lève et je viens avec Jésus sur une grande prairie, et je vois au fond de cette prairie des écrans, des télés, enfin voilà, et qui étaient alignés. Et Jésus me dit « Viens avec moi et on va faire le tour ». Alors je me vais devant le premier écran et je me vois dans l'écran à 16 ans. Dans une école biblique. Dans le prochain écran, je me vois, moi, à 16 ans, rencontrer mon futur mari dans cette école biblique. Après, je me vois, à 18 ans, me marier avec mon futur mari et rentrer dans le ministère. Après, je me vois prêcher devant des prisonniers. Je me vois devenir pasteur. Je me vois reprendre l'œuvre que mes parents ont fondée. Ainsi de suite, jusqu'à la fin de ma vie. Jusqu'au dernier jour de ma vie sur Terre. Une vie incroyable. Franchement, waouh. Là, Jésus... À la fin de cette promenade, il vient et il se met à genoux, parce que j'avais 9 ans. Il se met à genoux comme ça. Et je me souviens de son regard. Je me souviens de ses yeux, pleins d'amour et de compassion. J'ai jamais vu ça dans ma vie. Je vois ses yeux, ce regard. Et Jésus qui me regarde et qui me dit, « Daria, est-ce que cette vie te plaît ?» Je lui dis, « Jésus, c'est ma vie de rêve. Franchement, de l'aventure, un beau mari, je te sers, tout va bien. C'est une vie de rêve. » Il me dit « Alors à partir d'aujourd'hui, consacre-moi chaque jour de ta vie. » Je me réveille, il y a une lumière divine qui est sur moi. Je dis la première chose que je dis à mon père et à ma mère, une demi-heure après l'abus sexuel, « Papa, maman, ma vie est consacrée à Jésus. À 16 ans, j'irai à l'école biblique. Je rencontrerai là-bas mon mari. Et à 18 ans, on se mariera, on commencera le ministère et un jour, on reprendra votre œuvre. Je ne me souviens pas de ce que j'ai vu jusqu'à la fin de ma vie. Je me souviens juste des 3 premiers écrans, de ces 3 premières images que j'ai vues. Et effectivement, à 16 ans, je suis allée à l'école biblique. J'ai rencontré mon mari là-bas. On s'est mariés à 18 ans. J'ai été aumônier de prison. Je suis pasteur. On a repris l'œuvre de mes parents. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et gloire à Dieu pour ce témoignage dans ma vie que je peux vous partager aujourd'hui. Et je vais vous raconter encore la suite de mon histoire qui n'est pas finie au long de la journée. Mais vous savez quoi ? Pourquoi je vous le partage ? C'est que quand j'avais 9 ans, je ne me sentais pas prête. Croyez-moi que toutes mes émotions criaient « Wow, qu'est-ce qui se passe ? » J'ai 9 ans, je suis innocente, je ne suis pas censée devoir vivre ça en fait. Et je sais que parmi nous, il y a des femmes qui ont vécu des injustices. Et on se dit, on n'est pas censé vivre ça. Moi, je ne me sens pas prête, je ne me sens pas l'âme du guerrière. Je ne me sens pas comme une warrior. Mais Dieu savait. Dieu m'avait déjà préparée. Même à l'âge de 9 ans, j'aimais Jésus. J'étais prête, j'avais tout reçu. Même si je ne le sentais pas, même si je passais par les pires moments de ma vie à l'âge de 9 ans, l'humiliation. Je me suis réveillée, Dieu a fait un miracle. Tout est parti, la honte, la culpabilité, le mal, même physique. J'ai été miraculeusement guérie. Je suis un miracle devant vous, d'un abus sexuel. Dieu est fidèle, il savait. Il m'avait préparé pour un jour comme celui-ci. Il m'avait préparé pour qu'un jour je puisse venir témoigner devant chacune de vous, pour que ça puisse libérer en vous quelque chose qui vous enchaîne depuis tant d'années. Tu es prête. Tu as reçu Jésus, tu es prête. Mais c'est quoi le problème alors ? Je crois que Dieu t'a donné une mission. Vous savez, moi j'ai une mission dans ma vie. Et Dieu t'en a donné une à toi aussi. Dieu a donné une mission à chacune de nous. Et c'est bien la raison pourquoi tu es prête. La seule raison pourquoi Jésus t'a équipée et que tu as tout reçu, c'est parce que tu as une mission sur terre. C'est parce que Dieu t'appelle à faire quelque chose. C'est pas juste les autres. C'est pas juste Daria. C'est pas juste Edith ou Sophie. C'est pas juste ton pasteur ou ton ami qui est super spirituel. Jésus appelle chacun de nous. Et tu as une mission spécifique sur cette terre. Et ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que tu es équipée et tu es prête pour ça. Mais alors, quel est le problème ? L'ennemi de nos âmes, c'est-à-dire le mal, Satan, le diable, appelle-le comme tu veux, l'accusateur, sa plus grande tentation est de venir pour nous faire nous endormir. Parce que si on est prête et qu'on est prête à servir Dieu pour la mission qu'il nous a confiée, quel est le plus grand problème ? C'est de ne rien faire. C'est de rester endormi. Et c'est pour ça que Jésus, dans les évangiles, il nous exhorte, il nous appelle si souvent à veiller. Et j'aimerais qu'on lise ensemble dans Marc 13, versets 32 à 37. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous retrouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Dans ce passage, Jésus nous parle 1, 2, 3, 4. En 2, 3 phrases, Jésus nous dit 4 fois le mot veiller. C'est que vraiment, il y avait son importance. Et ce que j'aime chez Jésus, c'est qu'il utilise des paraboles simples pour nous expliquer des choses parfois un peu plus complexes ou du moins qu'on a du mal à comprendre, comme veiller. Jésus utilise cette parabole simple de ce maître de maison qui part en voyage et il demande à ses serviteurs, aux personnes qui sont dans la maison, en fait, il faudrait veiller parce que moi, je suis partie sans mes clés. Vous imaginez, enfin, je ne sais pas comment c'est pour vous, parfois en partant, j'oublie mes clés et je les perds dans mon sac, dans mon grand sac, les grands sacs fourre-tout, vous savez, bref. Et en fait, j'imagine juste ce maître de maison en version femme, vous voyez. Il part, il n'a pas ses clés et il dit aux gens dans la maison, imaginons que c'est ses filles, il dit « Oh les filles, s'il vous plaît, veillez, en fait, attendez-moi, je vais revenir. Je ne sais pas quand, parce que là, je suis partie sans savoir quand je rentre, mais je rentre et je n'ai pas mes clés. Donc, il va falloir veiller, s'il vous plaît. » Vous imaginez un peu le contexte, là ? Jésus nous dit la même chose pour lui. Est-ce que vous savez que Jésus, aujourd'hui, il est mort, ressuscité, il est à la droite du Père ? Il est en haut au ciel, il a donné son Saint-Esprit pour être avec nous sur terre, mais Jésus a dit qu'il reviendra. En fait, Jésus revient. C'est pas juste une belle chanson, Jésus revient, Jésus revient. Jésus reviendra. Et ça, c'est un fait qui est de plus en plus réel et concret et qu'on peut voir dans le monde. Est-ce que vous voyez le même monde que je vois actuellement? Est-ce qu'on voit toutes les catastrophes qui se passent? Est-ce qu'on voit le monde qui part en live total depuis les années Covid et après, et les guerres? Et je ne dis pas qu'on est la pire génération, il y a eu beaucoup de souffrances sur la Terre. Mais les amis, s'il vous plaît, on remarque que la Terre va de plus en plus mal, que ce monde a désespérément besoin de Jésus et d'être sauvé. Et c'est sûr et certain que Jésus va revenir. Quand? Nous ne le savons pas. Mais il va revenir. Et ce que Jésus attend de nous, c'est que nous ne nous endormons pas, que nous soyons réveillés, que nous veillons. Ce que j'aime bien dans ce passage biblique, j'ai étudié plus en profondeur les quatre mots veillés. Je me suis dit, attends, c'est trop bizarre qu'il y ait ce mot, que Jésus il insiste quatre fois comme ça, c'est qu'il doit y avoir une petite spécificité quelque part. Et ce qui se passe réellement, c'est que le mot veillé a différentes traductions en grec. C'est pas le même mot. Et c'est trop intéressant de voir, et je vais le dire rapidement. Le premier mot veillé qu'il y a dans ce texte, c'est agroupneo en grec, qui veut dire être sans sommeil, éveillé, veillé, être circonspect, attentif, être prêt. Donc le premier veillé parle d'être prêt, d'être sans sommeil. Je suis prêt, je suis là. Et le deuxième veillé qu'on retrouve à trois reprises, ça veut dire qu'il a plus insisté sur celui-ci, c'est gregoureio, veillé, métaphorique, porter une attention stricte, active. Ce n'est pas le même mot. Alors oui, c'est la même signification, mais avec des subtilités qui sont ultra intéressantes. Parce qu'au final, être prêt, ça veut dire quoi? Ça veut dire être prête et être active. Et Jésus insiste sur le active. Il le mentionne trois fois dans cette parabole. À trois reprises. Et puis surtout, la dernière phrase, il dit c'est pour tous. C'est-à-dire que ça nous correspond aussi. On peut le prendre pour chacune de nous, en fait. Jésus nous dit d'être réveillé, d'attendre Jésus qui revient, eh bien ça veut dire être prêt, il le dit une fois, sois prêt, prie aussi, sois prêt, mais surtout, sois active. Je ne sais pas comment c'est pour vous, si vous êtes marié ou pas, ou vous avez un copain, ou vous attendez quelqu'un, quand on se cale sur le canapé et qu'on se dit, ouais, je vais l'attendre. Il rentre vers 23h, 23h30, dès que tu viens d'avoir une grosse journée, tu es fatigué, tes enfants ils sont un peu fatigués aussi. Bref, on ne mentionnera pas toutes les raisons. T'es là et t'es fatigué et tu te cales sur le canapé. En plus, si t'as un bon canapé, c'est dangereux. On est d'accord? T'es là, tu te cales sur le canapé. Mais quelle est la tentation numéro une? Surtout quand le temps avance. Et surtout quand on regarde quelque chose qui est très ennuyant à la télé. On est là et on s'endort. Mais si on est active et qu'on bouge et qu'on se lève et qu'on fait quelque chose, on ne peut pas s'endormir en marchant, à part quelques-uns qui ont une maladie. Je sais que ça existe. Mais c'est quelque chose qui n'est pas normal. Dans la normalité, quand tu bouges, quand tu te réveilles, quand tu te sens fatigué, parfois on se lève, on bouge, et allez, c'est bon, allez, je vais me réveiller, ça va. Être active a un sens beaucoup plus profond dans le moment de veiller. Alors, évidemment, les filles, je parle de veiller spirituellement. Celles qui sont mamans comprendront le côté du sommeil. Le sommeil est important, je le sais. J'ai quatre filles, j'ai eu quatre filles en quatre ans. On peut applaudir. On a eu les quatre filles en quatre ans et je vous raconterai un peu plus tard, mais juste pour vous dire que à mes 24 ans, j'avais ma quatrième fille. À 20 ans, j'avais ma première. Donc à 24 ans, la quatrième. Et un an après, j'ai eu une tumeur qui a fait que je ne pouvais plus avoir d'enfant. Et les médecins m'ont dit que je ne pourrais plus jamais avoir d'enfant. Et surtout, je n'aurais pas pu avoir d'enfant normalement parce que j'avais une maladie. Ils m'ont dit vos quatre enfants sont des miracles. Et je trouve ça magnifique comment Dieu à tout dans son timing parfait. Parce qu'à l'âge de 25 ans, depuis que j'ai 25 ans, je suis stérile, je ne peux plus avoir d'enfants. Et à 24 ans, j'ai eu ma dernière fille. Et on voulait toujours avoir quatre filles avec mon mari. Dieu est merveilleux et ses plans sont parfaits. Alors évidemment, je parle de veiller spirituellement. Aujourd'hui, on est dans une conférence où on parle de couronner. On parle que oui, on est les filles du roi. Et je vais en parler dans mon prochain message qui s'intitule aussi couronner pour finir la conférence tout à l'heure. Mais en fait, ce que je veux vous dire, c'est que premièrement, j'aimerais tellement que vous saisissiez que en fait, on est prête, on a tout reçu. Et peu importe ce qu'on peut vivre, peu importe ce qu'on peut traverser, ça ne change en rien. Tes circonstances ne changent en rien que tu es prête, que tu as une mission sur cette terre et que tu as tout reçu. Par contre, ce qui est entre tes mains, c'est de veiller. Ce qui est entre nos mains, c'est de veiller. Alors comment veiller? Comment ne pas s'endormir. Et là, je me suis dit, en préparant le message, Daria, dans la vie normale, en tant qu'humaine, d'accord, il y a le côté spirituel et puis la vie humaine, la vie normale, qu'est-ce qui m'empêche de dormir? Alors, première chose, je me suis dit, c'est vrai qu'avec mon mari, on voyage beaucoup. On est tous les mois dans un pays, lui de son côté, moi de mon côté. C'est plutôt rare qu'on voyage ensemble, on est tous les deux pasteurs, prédicateurs. Du coup, on voyage beaucoup. Alors, les jours où je sais que mon mari rentre, je l'attends. Parce que je l'aime, mon mari, et j'aime bien passer du temps avec lui. Et ça va faire 18 ans qu'on est mariés, on a passé notre vie ensemble, on se connaît depuis qu'on a 16 ans, on a grandi ensemble pratiquement, et c'est mon âme sœur. Enfin voilà, on est vraiment très proches. Et évidemment, il y a des hauts et des bas, hein, comme tout le monde, mais on est proches et je l'attends. Et mon amour pour lui, parce que je l'aime, me laisse éveiller. Est-ce que vous comprenez où je veux en venir? Ça, c'est humainement, c'est mon cœur, voilà, d'épouse, de femme. Mais spirituellement, les filles, notre amour pour Jésus, notre amour pour Dieu devrait laisser notre esprit éveillé. Ça devrait empêcher notre esprit de s'endormir. Notre amour pour Dieu. Alors j'aimerais te poser une question aujourd'hui. Est-ce que ce que tu le fais par religiosité? Ou est-ce que tu le fais parce que ton cœur brûle d'amour pour le Seigneur? C'est OK si tu dis « Ah ouais, c'est plus par religiosité ». C'est pas grave, tu sais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu as l'occasion de changer la donne. Aujourd'hui, tu peux expérimenter l'amour de Dieu à nouveau. Aujourd'hui, c'est ton jour. Dieu te donne rendez-vous aujourd'hui. Comment ça se passe dans ton cœur? Est-ce que tu fais les choses parce qu'il faut les faire? Est-ce que tu fais les choses parce que tu as grandi dans une famille chrétienne? Ou parce que bah, ça se fait comme ça, hein, le dimanche, on va à l'église. Bah, les 10 heures, ça va, c'est une fois par an. Est-ce que tu es juste venu parce qu'une pote t'a invité? Est-ce que tu es juste venu parce que tu n'avais juste pas quoi faire aujourd'hui? Est-ce que tu viens parce que tu veux plaire à ton pasteur? Est-ce que tu viens parce que peut-être même tu veux plaire à Dieu? Donc les raisons sont mauvaises. Est-ce que tu fais les choses parce que tu dois les faire par religiosité? Ou est-ce que tu fais les choses poussées dans tes tripes, dans ton cœur, dans ton esprit, par l'amour que tu portes à ton Dieu? Pose-toi la question et change la donne aujourd'hui s'il le faut. Ensuite, dans la vie normale, humaine, on le voit surtout chez les bébés. C'est la faim. Quand un bébé a faim, qui est maman de bébé ici? Je vois quelques poussettes. Ok, on va prier pour vous. J'ai pas dormi pendant 6 ans. C'est-à-dire qu'un bébé après l'autre avait faim, et puis du coup, bah, tu dors pas vraiment. La faim d'un être humain, en tant qu'adulte, on arrive un peu plus à réguler ça. Certains n'arrivent pas du tout à dormir quand ils ont vraiment trop faim. Quand on jeûne, c'est un peu compliqué. Mais du coup, chez le bébé, on voit que naturellement, quand un bébé a faim, il ne peut pas dormir. Ça t'empêche de dormir. Et là, vous savez où je veux en venir, spirituellement parlant. Est-ce que tu as faim et soif de Dieu dans ta vie? Ou est-ce que tu te satisfais du statu quo? Est-ce que tu es là et tu dis, bon, bah, écoute, ça fait 20 ans que je suis chrétien. J'ai tout vu. Je suis allé à toutes les conférences. J'ai entendu tous les témoignages. J'ai lu tous les livres que j'avais à lire. C'est bon, moi, je suis rodé. Je suis un chrétien, plus, vous voyez? Moi, c'est bon, je suis là. On ne peut plus me surprendre, c'est fini. Je connais Dieu, je connais les gens, je connais la terre, je connais mon appel. Est-ce que cette faim en toi, elle est là? Parce que cette faim spirituelle, elle va te laisser réveiller. Elle va te laisser éveiller. Ton esprit ne pourra pas s'endormir. Avoir faim et soif de la parole de Dieu. Croire que chaque jour, Dieu peut faire encore des nouvelles choses. Dieu peut faire encore des nouvelles choses. Dieu peut faire des miracles, Dieu peut transformer ta vie, Dieu peut t'utiliser pour transformer la vie des autres. Dieu peut venir avec un vent de l'esprit sur l'Europe et des réveils, un réveil qui est là, un réveil spirituel dans nos églises, dans nos rues. Que des enfants, des jeunes filles, des adultes, que tout le monde soit réveillé, que des miracles se produisent même au milieu de la rue, dans nos églises, que des gens soient guéris, soient sauvés. Elle est où la fin? Parce que croyez-moi, quand on a faim, on veut plus. On a besoin d'être rassasié, on veut plus. Dieu, plus de toi. Quand est-ce que la dernière fois, tu as crié à Dieu, Dieu, plus de toi. Plus de toi dans ma vie. Plus de toi en Suisse. Plus de toi à Vevey. Plus de toi de la ville d'où tu viens. Plus de toi en Europe. On veut voir des gens libérés de leur souffrance, marre de la souffrance. Marre de la souffrance, marre d'être détruit par l'ennemi. Marre d'être humilié. Marre de pleurer. Marre d'être au bout du rouleau. Il est temps de se lever. On l'a vu dans ce clip, il est temps de se lever. Il est temps de porter notre couronne. Mais est-ce que cette faim, elle est encore là? Ou est-ce que tu te satisfais? Aujourd'hui, tu as la possibilité de changer la donne. Ce qui nous reste réveillé aussi, c'est le voleur. Alors moi, j'ai beaucoup d'expérience du coup avec des voleurs, parce qu'en tant qu'enfant, on a été cambriolé 15 ou 16 fois, je ne sais plus tellement il y en avait. Et il faut vous dire que c'était toujours le dimanche matin quand on allait à l'église, parce que nos voisins savaient qu'on était pasteurs, chrétiens, la famille, et que les dimanches matins, on n'était pas chez nous. Donc les dimanches matins, ils étaient chez nous, et en fait, on était d'astreinte pour surveiller la maison, les enfants. Donc on est 5 enfants. Et chaque fois, un dimanche matin, il y a quelqu'un qui devait rester à la maison. Et le jour où c'était mon tour, j'étais à la maison, et là, bah, il y a des voleurs qui rentrent. Je me cache derrière le rideau, j'ai la peur de ma vie. Et voilà. Et du coup, ils ont tout saccagé à la maison à chaque fois. Et ils nous ont volé aussi dans la chambre des enfants. Ils nous avaient tout volé. Et la chambre était saccagée. Et on était là. Et je me souviens de ce moment un soir où on rangeait avec ma mère. Et j'étais là dans mon lit le soir. Et j'avais peur. Mais peur. Je me disais, mais ils vont revenir. Et ça, c'était l'histoire de notre enfance. Et c'est vrai que ça m'a quand même marqué. Où je me suis dit, oui, Seigneur, on fait ça pour toi. Et on sait qu'il y a un combat spirituel. On sait que le diable ne veut pas qu'on reste dans ce quartier, mais on va y rester parce qu'il y a un appel sur notre vie, etc. Mais on était là et on avait peur. Croyez-moi, ça m'a empêché de dormir. Humainement parlant, ça m'a empêché de dormir. Peut-être que tu as déjà vécu des cambriolages, ça t'empêche de dormir un certain temps. Alors, si on le transmet dans le côté spirituel, vous savez qu'il y a un voleur ? Est-ce que vous savez combien de fois dans la Bible Dieu nous dit, mais surveille ton cœur, qu'on ne te vole pas ta joie, qu'on ne rentre pas dans ton cœur, que pas n'importe qui rentre dans ton cœur, surveille ton cœur plus que toute autre chose. Qu'est-ce que tu t'es laissé voler dans ta vie ? On t'a volé ta joie ? On t'a peut-être volé ta dignité ? On t'a peut-être pris ta liberté ? On t'a pris peut-être tes rêves ? Peut-être que tu subis ta vie actuellement. Peut-être que tu as même abandonné des choses parce que c'est bon, c'est trop tard. On me l'a pris. Je ne pourrai plus le retrouver, c'est fini. C'est un mensonge. Vous savez que le voleur, donc l'ennemi, est appelé aussi le menteur. Et la première chose qu'il va faire, c'est venir et te souffler à l'oreille. Tu sais quoi, je t'ai tout pris. Tu n'as plus rien. Tu es une femme ? Pas du tout. Tu n'as plus rien. De l'honneur ? Rien du tout. Tu n'as plus d'honneur. De la joie. Qu'est-ce que c'est la joie? On ne connaît plus. Il y a trop de souffrance, il y a trop de problèmes dans la vie. C'est quoi la joie? Le voleur vient pour voler, pour détruire, mais vient aussi pour te mentir à l'oreille que tu n'as plus rien. Alors j'aimerais te dire un truc, spirituellement parlant. Comment ça se passe? Qui tu laisses rentrer dans ton cœur? À qui tu donnes l'accès de ton cœur dans ta vie? À qui tu donnes la possibilité de te voler des choses que Dieu t'a données, ton identité, la femme que tu es, la femme de Dieu que tu es, la femme choisie que tu es, la fille du roi, la princesse, la couronnée. Qui as-tu laissé rentrer dans ton cœur, dans ta vie? Je vais être très transparente avec vous. À plein de reprises dans ma vie, je laissais rentrer des choses mauvaises dans mon cœur. Et ça, même en tant que pasteur, même dans le ministère. Il arrive régulièrement que, même sans le vouloir et sans faire exprès, je laisse rentrer des choses dans mon cœur qui ne viennent pas de Dieu. Et, évidemment, c'est pas bon. Mais c'est OK. Dans la mesure où on comprend qu'on a fait une erreur, et ça s'appelle la repentance. Dire, Seigneur, pardon. J'ai laissé rentrer le voleur dans mon cœur. Je lui ai laissé me mentir. Je lui ai laissé prendre des choses que tu m'as données. Je suis là, à genoux devant toi aujourd'hui. Je te demande pardon. Pardon d'avoir laissé accès au diable. Pardon. Il n'y a que toi, Jésus, qui rentre dans mon cœur. Que toi, Seigneur, qui rentre dans mon cœur. Je veux recevoir ta joie, ta paix, ton amour. Je veux recevoir la puissance de ton esprit, ton feu. Que toi, Jésus, dans mon cœur. À quel moment et à quel niveau tu protèges ton cœur? Croyez-moi que quand tu veilles avec ton esprit, que personne ne rentre dans ton cœur, tu restes éveillé. Ça laisse ton esprit éveillé. Crois-moi que quand tu ne veux pas qu'un voleur rentre la nuit, même si tu as mis Vérissure, je ne sais pas si vous connaissez les alarmes, même si tu as mis ça dans ta maison, crois-moi, si tu viens de te faire cambrioler il y a 2 jours, tu ne dors pas. Tu es là et tu surveilles. Le moindre bruit, tu te dis, oh là là là, personne ne rentre. On l'a vécu, je le sais. Avec l'ennemi, c'est pareil. Le monde spirituel, c'est pareil. Que ton esprit veille. Fais attention. L'ennemi rôde comme un lion autour de toi pour te dévorer. Fais attention, c'est tout. C'est ce qui est marqué dans la Bible. On n'est pas au pays des bisounours ici. On est sur terre. Et oui, il y a un ennemi. On peut parler de l'activité, j'en parlais tout à l'heure. Quand on est actif, on ne peut pas dormir. Alors comment le transposer au niveau spirituel ? Quand on met en pratique l'appel de Dieu sur notre vie, notre esprit ne peut pas s'endormir. À quel niveau tu as mis en pratique ce que Dieu t'a demandé de faire ? Vous savez, ce petit rêve que Dieu t'a donné un jour ? Ou ce truc en toi, ah ouais, moi je veux, par exemple, je veux servir Dieu dans la mission ou dans mon église, je sais qu'à ce service-là, j'ai trop envie, ou je sais que dans mon collège, je devais parler de Jésus, mais je ne l'ai pas fait, je n'ai pas osé. Ou ma collègue de travail, là, ah, ça fait des années que je l'ai à cœur et je n'ai toujours pas osé. Vas-y, rentre dans ton appel, lève-toi, brille, parce que c'est comme ça que ton esprit va rester éveillé, comme Jésus nous le demande, veillez. Le fardeau. Quand on est surchargé dans la vie, quand on porte des fardeaux lourds, problèmes financiers, problèmes relationnels, eh bien c'est lourd. Et parfois, je ne sais pas comment c'est pour vous, mais quand on a des soucis, ça nous empêche de dormir, pas vrai ? Est-ce qu'il y a des personnes ici qui cogitent la nuit ? On est là sur le lit, on se dit « Pourquoi j'arrive pas à dormir ?» Et là, tu as toutes les pensées qui te viennent et tous les trucs un peu mauvais qui sont passés dans ta journée ou dans ta semaine ou des choses toujours pas réglées dans ta vie. Et tu es là et tu te dis « Mais pourquoi les pensées, elles viennent maintenant ?» Alors ça, c'est humainement parlant, mais spirituellement parlant. Jésus nous dit que Dieu nous donne un fardeau, un joug léger. Il n'est pas lourd, il est léger. Par contre, il y en a un. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je pense que ce joug léger, ce fardeau léger, que cet appel que Dieu nous a donné devrait garder notre esprit éveillé. Tout comme parfois ces soucis du monde nous laissent réveiller. Et pour finir, les mots. On m'a souvent dit des mots difficile. J'ai été moquée toute mon adolescence. J'ai subi des moqueries. J'ai pas eu d'amis. On m'a fait la misère vraiment quand j'étais adolescente et adulte, même en tant que pasteur. Dès que tu vis des choses incroyables, eh bien, croyez-moi qu'il y a aussi des gens qui sont là pour critiquer. Il y a aussi des gens là qui sont là pour t'accuser, pour te juger. On est un peu championne quand même dans le jugement en tant que femme. Et j'ai eu des jugements, j'ai subi des jugements, j'ai eu des mots, des mensonges, des mots mauvais sur moi. Croyez-moi, ça m'a empêché de dormir. J'étais là la nuit sur mon lit et je suis sûre que vous connaissez ça. Je suis sûre que vous avez déjà subi des mots qui étaient mauvais contre vous, des paroles mauvaises contre vous. Et on est là dans le lit, on se dit, mais pourquoi j'ai pas mérité ça, c'est injuste. Et ce qui se passe en fait, c'est que dans le côté spirituel, on a la parole de Dieu, les filles. Et si on transpose ça dans le côté spirituel, et qu'on dit, pas les mots de ce monde, pas les paroles de ce monde vont me tenir réveillée. Non, l'esprit qui reste réveillé, c'est par la parole de Dieu. Combien de fois tu ouvres la Bible ? Combien de fois tu te nourris de la parole de Dieu ? Combien de fois tu te nourris des mots de Dieu ? Dis sur ta vie que tu es aimée, choisie, appelée, merveilleuse, unique. Et j'aimerais bien venir sur ça maintenant et terminer sur ça. Tu sais, mon histoire n'est pas ton histoire. Je ne suis pas meilleure que toi. J'ai une autre histoire que toi. C'est la différence. Tu as ton histoire. Moi, je touche les personnes que Dieu me permet de toucher avec mon histoire. Mais je ne pourrai jamais toucher les personnes de ton monde, de ton entourage. Tu es unique. Tu es complètement unique. Arrêtons de nous comparer à droite, à gauche. Arrêtons de vouloir, d'envier elle, je veux être comme elle, je veux être comme lui, je veux avoir ce ministère, je veux briller comme elle. Ah, elle a le courage. Tu peux que toucher toi-même ton monde. J'ai pas ta sensibilité, j'ai la mienne. J'ai pas ton histoire, j'ai la mienne. J'ai pas tes dons, j'ai les miens. J'ai pas tes compétences, j'ai les miennes. Vous voyez où je veux en venir ? Chacun est unique. Tu es unique avec ce que tu as reçu de Dieu. Tu es complètement unique et tu es la seule qui peut te lever pour ton monde. Dieu t'a placé quelque part sur cette terre. Dieu t'a placé quelque part sur cette terre. Tu es dans ta famille, tu es dans ton quartier, tu es dans ta ville, tu es dans ton pays. Dieu t'a placé quelque part sur cette terre pour une seule et bonne raison. C'est parce que tu es la seule qui peut toucher ton entourage. Tu es la seule avec ta sensibilité, avec ton histoire, avec ton vécu, avec tes souffrances, avec tes brisements dans ta vie. Avec tes apprentissages, avec ton passé, ton héritage, tu es la seule qui peut toucher. Est-ce que tu te rends compte de ça ? Est-ce que tu t'es déjà dit ça, que tu étais la seule à pouvoir toucher ton monde ? Je ne peux pas faire ton travail. Je ne peux pas être ta lumière briller pour toi. Ça ne marche pas. Moi, je fais mon job. Je réponds à ce que Dieu veut. Dieu m'a donné une mission et j'y réponds. Mais j'aimerais de tout mon cœur te dire aujourd'hui et t'encourager à te lever là où Dieu t'a placé. Que cette journée ne soit pas juste une belle conférence, mais que cette journée soit un avant-après dans ta vie où tu dis, je me lève, je sais que je suis prête, je sais que j'ai tout reçu de Jésus. Je sais que je suis prête même si je ne le sens pas. Même si tu viens de vivre un abus, même si tu viens de vivre la pire année de ta vie, même si tu viens de perdre ton job ou que tu viens de divorcer, peu importe ce que tu es en train de vivre, peu importe la souffrance par laquelle tu es en train de passer, si tu marches avec Jésus, tu es prête. Ça, c'est la vérité. Maintenant, peut-être que tu arrives dans des moments où tu t'es endormi, où ton esprit s'est endormi. Je vais te donner la possibilité maintenant. On va faire un temps où tu peux répondre à Dieu. On va faire un temps où tu pourras dire à Dieu, soit, Jésus, je veux t'accepter dans ma vie parce qu'en fait, jusqu'à aujourd'hui, je ne t'ai jamais accepté dans mon cœur. Mais j'aimerais parce que je veux recevoir tout ça aussi. Alors je vais prier pour toi. Peut-être que tu es là et tu dis, ok, j'ai compris, je suis prête. Je sais que j'ai tout reçu de Jésus. Mais je ne me sens vraiment pas prête. Alors saisis ça que Dieu t'a préparé pour la mission qu'il t'a donnée, même si tu ne te sens pas prête. Ce n'est pas dépendant de tes émotions. C'est une réalité dans ta vie et je vais prier pour toi. Et si tu es là et tu dis, ouais, c'est bon, je suis prête, même quand je ne le sens pas, je connais tout. Par contre, je me suis endormie. Je me suis laissée avoir. Je me suis laissée avoir par tout ce qui me fait endormir dans la vie. Je n'ai pas veillé, mon esprit n'a pas veillé. Alors je vais te donner l'occasion de demander pardon à Dieu. Et de dire, Seigneur, je te demande pardon. Pardon de m'être endormie. Je t'attends, Jésus, je sais que tu reviens. Et je veux être celle, je veux être cette femme qui sera debout, qui brillera dans le monde où tu m'as placée. Alléluia. Je veux être la femme qui est debout et qui veille le retour du maître de la maison. Je veux être cette femme qui brille, qui est forte, qui est là et qui veille à la porte. Si tu veux être cette femme, alors je t'invite à répondre à Dieu. Ce qu'on va faire, on va fermer nos yeux. Parce que c'est une décision personnelle maintenant. C'est une décision pour toi maintenant. Et je vais vous demander qu'on se lève ensemble. Et je vais maintenant parler de ces trois points, de ces trois réponses possibles. Et si tu te sens concerné par une de ces réponses à Dieu, alors ce que je t'encourage, c'est de mettre ta main sur ton cœur. Parce que cette histoire, elle est entre toi et Dieu. Évidemment, tu peux en parler à tes amis avec qui tu es, ou avec ton pasteur, avec des responsables de la conférence, et je t'encourage à le faire aujourd'hui. Mais cette histoire, elle est entre toi et Dieu. On n'est pas là pour la gloire humaine, on n'est pas là pour montrer qui on est devant les autres. On s'en fout de ça. On n'est pas là pour ça, la gloire à Dieu. Aujourd'hui, tu es là pour répondre. Aujourd'hui, tu es là pour que ce soit un jour qui change ta vie. Que ce soit un jour où tu repars différemment que comme tu es venu. Amen. Alors, si tu es là aujourd'hui et que tu n'as encore jamais accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, celui qui est mort à la croix et qui est ressuscité, qui a pris sur lui tous tes péchés, qui a pris sur lui toutes tes maladies, qui a pris sur lui toutes tes souffrances. Il est mort et il est ressuscité. Il a la victoire sur la mort, la victoire sur la maladie, la victoire sur les péchés. Jésus-Christ est le Sauveur du monde. Et si aujourd'hui, tu veux dire, « Ok Jésus, je veux te laisser une chance. Ok Jésus, je veux ouvrir mon petit cœur. » Même si c'est une petite ouverture, je veux ouvrir mon cœur et je veux t'y inviter. Je veux essayer parce que ouais, j'ai essayé plein de choses dans ma vie. Mais j'ai besoin de toi et le monde souffre et je souffre et j'ai besoin de toi. Si tu es prête aujourd'hui à dire « Jésus, viens dans mon cœur, je veux être sauvée. Je veux recevoir tout ce que tu veux me donner. » Alors mets ta main sur ton cœur maintenant. Mets ta main sur ton cœur maintenant. Jésus te voit. Et Jésus rentre dans ton cœur maintenant. Jésus rentre dans ton cœur maintenant. Et je vais prier pour chacune de vous. Je vois toutes vos mains. Il y a beaucoup de mains sur les cœurs. Et je vois vos mains. Et Dieu les voit. Et les filles, vous êtes en train de prendre la meilleure décision de votre vie. Actuellement, il y a la fête dans le ciel et sur la terre. Et je vais prier pour chacune de vous. Alors pour encourager ces femmes qui prennent cette décision, je vous demanderai à tous de répéter après moi. Et toi aussi qui as mis ta main sur ton cœur, répète après moi. Seigneur Jésus, je reconnais aujourd'hui que je suis pécheur, que je fais des choses mauvaises. Je reconnais aujourd'hui que j'ai besoin d'être sauvé. Je crois que toi, Jésus, tu es mort à la croix et tu es ressuscité. Tu as pris sur toi mon péché. Tu as pris sur toi mes maladies. Tu es ressuscité et tu as vaincu la mort et le péché. Je crois que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. À partir d'aujourd'hui, j'appartiens à la famille du Christ. Merci parce que tu m'as sauvé. Et je vais passer l'éternité avec toi et ces femmes qui croient en toi. Amen. Amen. On peut applaudir et encourager les femmes. Si tu es cette femme qui a pris une décision, je t'encourage à en parler à des personnes qui peut-être sont des responsables ou qui travaillent ici ou des personnes, des amis qui sont avec toi pour qu'on puisse vraiment fêter avec toi cette victoire. Maintenant, je vais quand même prier pour celles, pour les deux autres points, les deux autres raisons. Et on peut refermer les yeux et si tu es là, on prend quelques instants encore, si tu es là et clairement tu te sentais pas prête et tu viens de comprendre quelque chose aujourd'hui, tu viens d'avoir une révélation, alors mets ta main sur le cœur et je vais prier pour toi. Beaucoup de mains sur les cœurs. Je vais prier pour toi maintenant. Seigneur Jésus, tu vois toutes ces mains sur les cœurs. Père, merci parce qu'on est en train de vivre un moment divin. On est en train de vivre un temps que tu as préparé, Père éternel. Père, je te prie pour toutes ces femmes qui maintenant mettent la main sur leur cœur. Et Seigneur, je te remercie que tu ne dépends pas de nos circonstances. Merci, Père, parce que tu ne dépends pas de nos émotions. Mais Seigneur, tu nous as rendus prêtes. Tu nous as préparés pour la mission que tu nous as confiée. Seigneur, je prie pour toutes ces femmes qui n'en avaient pas conscience. Je prie maintenant pour un renouvellement de l'intelligence. Je prie, Seigneur, pour ta révélation, corps, âme, esprit, que toutes ces femmes comprennent maintenant que peu importe ce qu'elles vivent, elles sont prêtes par toi, Jésus, parce qu'elles ont tout reçu en toi, Jésus. Je prie maintenant, Seigneur, pour une révélation qui va se concrétiser dans leur vie, dès aujourd'hui, qu'elles vont voir une différence dans leur vie. Seigneur, je prie, Seigneur, que dans leur vie de famille, dans leur vie de couple, dans leur travail, dans leur quartier, dans leur ville, elles voient une réelle différence, parce qu'elles voient que même si elles ne se sentent pas prêtes, elles sont prêtes parce qu'elles ont tout reçu. Seigneur, glorifie-toi, comme tu t'es glorifié à travers l'abus sexuel que j'ai vécu. Glorifie-toi à travers leur souffrance, au nom puissant de Jésus. Amen. Et maintenant, la dernière raison, la dernière réponse que tu peux donner à Dieu. Si tu es là et que tu es chrétienne et que tu sais toutes ces choses, mais qu'en fait, tu t'es endormie ou tu penses être endormie dans certains endroits dans ta vie, alors mets ta main sur ton cœur maintenant. Dieu voit ta main. Et maintenant, on va prier une prière de repentance. Vous savez, Dieu aime le cœur humble. Dieu se glorifie dans la repentance. Dieu se glorifie dans l'humilité. Et quand il voit ta main maintenant, il va se glorifier dans ta vie. Père, merci pour toutes ces femmes qui ont la main sur leur cœur. Merci pour ces femmes qui veulent maintenant te demander pardon. Elles te demandent pardon maintenant de s'être endormies, Seigneur, dans le domaine où tu les as appelées. Seigneur, je prie maintenant pour un réveil spirituel. Un réveil spirituel. Fais ton œuvre, Seigneur, maintenant, dans la vie de ces femmes. Que ces femmes sortent de cette conférence différente, réveillées. Que leur esprit est réveillé à nouveau. Souffle, Saint-Esprit, dans cette pièce. Souffle dans la vie de ces femmes maintenant. Qu'elles soient complètement, Seigneur, réveillées pour pouvoir être actives, prêtes, veillées. Pour ta venue, Seigneur, pour le monde dans lequel tu les as placés, qu'elles puissent briller pour toi, Jésus, qu'elles puissent briller dans le monde où tu les as placées. Merci, Seigneur, de venir avec ton vent maintenant et tu souffles dans la vie de ces femmes. Au nom puissant de Jésus, fais ton œuvre, Saint-Esprit, tu es là parmi nous. Fais ton œuvre, au nom de Jésus. Amen.